Ça commence samedi et ça dure jusqu'au dimanche 12 juillet. De Bac à Bacchus, on est en Côte d'Or à Meursault. Maurice Maillot, le président de l'association des Amis de la Musique à Meursault. Et quand on dit de Bac à Bacchus, est-ce que ça veut dire qu'au fond, on est à la rencontre de deux traditions ?
C'est exactement ça. En fait, le festival est né il y a 40 ans avec Yves Henry qui a épousé Maurice Altienne, c'est le nom des habitants de Meursault, qui a eu l'idée avec quelques vignerons mélomanes d'organiser un festival pour que les vignerons qui sont en plein travail à ce moment-là puissent assister à des concerts sur place. Et donc en 86, ça a démarré avec Yves Henry, puis des solistes de l'Orchestre de Paris qui sont venus jouer et qui seront d'ailleurs présents sur scène comme ils l'ont fait il y a 40 ans pour un concert anniversaire le 7 juillet. Et l'idée a été en fait de jumeler deux arts, la musique et le vin. Et à l'époque, c'était pas une idée courante.
On a le sentiment que chez vous, on souhaite aller au-delà de la dégustation. Bon, et en plus, bon, dégustation, ça veut dire quoi ? Ben, venez donc passer commande aussi, j'imagine. Mais j'ai le sentiment qu'on a envie d'aller au-delà de ça pour peut-être mieux comprendre comment vit, comment fonctionne ce monde du vin.
L'idée, c'est pas de faire, comme vous dites, une dégustation achat. C'est en fait sur les activités vitivinicoles qui entourent le festival. On a par exemple une visite du vignoble où une historienne et une géologue expliquent comment et pourquoi Meursault a vu perdre sa production de rouge. Dans les années 20, Meursault avait à peu près un tiers de sa production qui était du rouge, et parmi elles, un candidat à un grand cru de Bourgogne. Et comment, historiquement, économiquement, on a décidé de faire en fait des marques Meursault blanc, Volnay rouge et de ne pas mélanger. Il y a également une dégustation qui fait un petit peu goûter aux différences qu'il peut y avoir entre les odeurs d'un vin et d'un parfum. On a une dégustation sur les vins anciens, venir boire du vin romain, du clairé ou du vin des Lumières.
On n'a pas les bouteilles d'époque là tout de même.
Non, tout à fait. Et c'est fait à partir de recettes de la part d'une historienne qui a retrouvé les recettes et qui reconstitue ces vins comme ils étaient à l'époque. Ou bien on a également une dégustation qu'on appelle Histoire, Archives et Vins avec les Archives de Beaune, où en fait on fera déguster 4 vins de 4 parcelles différentes et où l'archiviste pourra présenter des documents d'archives sur l'histoire de ces parcelles. Et c'est un petit peu l'angle d'attaque des dégustations qu'on organise ou des visites qu'on organise autour du festival.
Douce France, les garçons et ceux de mon âge se promènent dans les rues de Paris.
De mon enfance,
Marie galante,
bercée de tant d'insouciance,
je serai la plus belle pour aller danser.
J'ai gardé dans mon cœur
la valeur de Cadix à des yeux de ballon.
Maurice Maillot, sans oublier Bacchus, revenons à Bac, alors que tu es assez peu présent dans les programmes, mais on en parle régulièrement pour que je n'y revienne pas. Samedi prochain, donc jour d'ouverture, vous commencez très fort à Meursault et autour.
En fait, la journée du samedi, elle a été conçue pour permettre à des gens de venir passer la journée avec une introduction le matin, un petit déjeuner en musique avec un quatuor vocal à Boca Chiusa, qui fait de très très jolis arrangements de chansons françaises, de Clément Jeannequin à Jacques Brel, en passant par Anne Sylvestre. Et c'est des arrangements très beaux et parfois très drôles. Et puis ensuite, il y a un apéro-concert dans un domaine avec... Alors le matin, c'est du café et du thé, hein, il n'y a pas de vin à 9h du matin. Mais à 11h, il y a un apéro-concert avec du jazz manouche, puis un groupe qui s'appelle Les Manches à Cordes, de Dijon. Et puis ensuite, il y a un concert sur la place du village avec l'harmonie de Meursault.
C'est l'envie de faire participer les gens qui vivent et font de la musique à Meursault.
L'harmonie de Meursault, c'est un classique du festival depuis toujours. C'est le fait de faire participer les personnes qui font de la musique à Meursault, tout à fait. De la même manière que dans le parcours, on a un ami membre de l'association qui est accordéoniste et qui fait un duo piano-accordéon durant le parcours musical. Et dans le même parcours, on a un duo trompette et harpe qui fait de la musique romantique et post-romantique, qui sont tous les deux professeurs au Conservatoire de Beaune. Et c'est l'idée de mettre en valeur les musiciens qui travaillent sur place.
J'imagine tout de même que si on fait la tournée des lieux de musique, On a aussi des occasions de satisfaire le gosier en plus des oreilles.
Ce sont des doses de dégustation tout de même, mais il y a la possibilité de rencontrer quatre vignerons différents qui font goûter différents vins et de discuter avec eux durant le parcours. Et le samedi après-midi, on a également un quintet à vent qui vient faire un concert dans un domaine à l'ombre de tilleuls absolument magnifiques.
Et on y joue beaucoup Maurice Ravel.
La musique début du 20e et puis du Gershwin aussi.
Le dimanche, un chœur.
C'est un chœur de Paris, les divertissements, qui a créé un programme complètement d'actualité autour de la guerre et de la paix, qui remonte le temps un petit peu depuis Poulenc jusqu'à Handel, et qui prend des œuvres parlant de guerre et de paix, comme par exemple le poème de Victor Hugo, les Jeans, mis en musique par Gabriel Fauré.
On joue beaucoup de musique baroque à l'occasion des festivals d'été en Bourgogne-Franche-Comté. Alors ça n'est pas votre cas, même s'il y a effectivement un concert de musique baroque, ce sera lundi soir.
Nous avons le plaisir de réaccueillir Mariana Flores et les solistes de Capella Mediterranea. Elle était venue il y a 3 ans pour présenter son disque de chansons argentines Alfonsina. Et en fait, elle nous revient avec un programme de compositrice du XVIIe siècle, un concert qui s'appelle Muse et Sirène, donc avec Margarita Cozzolani, Barbara Strozzi, Antonia Bembo, qui sont des compositrices vénitiennes du XVIIe siècle, beaucoup moins connues que les compositeurs. Elle sera accompagnée par Monica Pustelnik à l'archilute et puis Quito Gatto au théorbe. Et Margot Blanchard à la viole de gambe, ça promet un très beau concert.
Très beau concert aussi, le lendemain sûrement, puisqu'il s'agit là de fêter les 40 ans du festival, avec un certain nombre d'artistes.
L'idée qu'a eue Yves Henry, c'est de faire revenir les quelques musiciens avec qui il a débuté ce festival en 1986. Et donc, on aura le plaisir d'avoir un programme qui va de Jean-Sébastien Bach. Il y aura quand même une œuvre de Jean-Sébastien Bach jusqu'à Debussy. Et avec donc Yves-Henri au piano, qui jouera avec son frère, Gilles-Henri, au violon. Alain Moglia, également au violon, les rejoindra. Et puis, on aura André Casalet au corps et Pascal Moragues à la clarinette, qui ont tous débuté ce festival en 86. Et puis qui ont fait une belle carrière comme solistes aussi de l'Orchestre de Paris. Et ils nous reviennent tous les 5 pour fêter les 40 ans.
Et ensuite, on va fêter ça à table.
C'est une tradition du festival d'organiser un repas pendant le festival. Or, celui-ci sera un repas anniversaire, donc avec un très beau gâteau, j'espère.
le temps de se remettre, donc on fait relâche le mercredi, pour arriver à des sucreries le jeudi soir, mais attention, rien à voir avec la canne à sucre ou la betterave.
En fait, c'est l'ensemble alchimien qui joue des répertoires anciens et de nos jours. Mariana Delgadillo Espinosa fait des recherches sur la musique bolivienne et elle a retrouvé des partitions dans à sucre, dans la cathédrale de sucre.
D'où le mot sucrerie.
Et c'est à la fois donc, un programme constitué de musique d'époque, où il y a la musique baroque espagnole du XVIIe siècle, avec des œuvres plutôt contemporaines qui se sont inspirées de cette musique.
Beethoven au programme du vendredi soir. Alors le samedi, du jazz, on retrouve le vin et les dégustations. Et un autre anniversaire. Et on retrouve l'église Saint-Nicolas, je dis on retrouve parce que les concerts, les grands concerts, si on peut dire, ont lieu dans l'église de Meursault.
Tous cette année.
On fête un anniversaire, celui de l'arrivée d'un instrument que vous avez conservé, qu'on a pu entendre aussi durant le mai de Meursault, mais qu'on pourra encore entendre le soir.
En fait, cet orgue, c'est un orgue Mutin Cavaillé-Coll qui a été commandé par l'orchestre Colonne au début du XXe siècle. Et qui a été inauguré au Châtelet. Cet orgue a une particularité, il n'est pas très grand, mais il doit pouvoir répondre à un orchestre symphonique.
On est plus proche de l'orgue de cinéma que de l'orgue d'église.
Alors, la sonorité ressemble plus à un orgue de cinéma, effectivement. Enfin, on peut dire ça comme ça. C'est même ce qu'avait dit Benjamin Allard quand il est venu au mois de mai. Et en fait, la deuxième spécificité, c'est qu'au Théâtre du Châtelet, à l'époque, il y avait plein de choses. Il y avait du cinéma, il y avait du cirque. Et donc, quand l'orchestre Colonne terminait son concert, l'orgue devait être démonté rapidement. Et donc, ça veut dire qu'on a un instrument qui n'est pas très grand, mais qui peut produire de belles sonorités pour pouvoir répondre à un orchestre symphonique. Et donc, on a retrouvé le programme d'inauguration de cet orgue au Théâtre du Châtelet en 1908. Il a été acquis par la paroisse de Meursault en 1926. Et à l'occasion du centenaire de son arrivée à Meursault, on a repris le programme d'inauguration au Théâtre du Châtelet, au cours duquel avait été jouée la symphonie pour orgue de Saint-Saëns.
Mais vous allez proposer cette symphonie sans orchestre.
Avec un orchestre, mais pas un orchestre symphonique, parce que de toute façon, dans l'église, il ne rentrerait pas, et on n'aurait pas les moyens. Mais avec un ensemble de cuivres et percussions. Et Thierry Kans a réalisé une transcription de la symphonie pour orgue, pour cuivre et percussions et orgue. Et c'est cette transcription qui sera jouée par le Canaille de Brass pour fêter les 100 ans de l'arrivée, avec au programme également l'ouverture de Parsifal de Richard Wagner et un concerto pour cor de Sibelius.
Moïse Maillot, on a quasiment déroulé le programme, donc nous voici à la conclusion. On est dimanche soir, le 12 juillet, à 18h, toujours dans l'église Saint-Nicolas.
On a le plaisir de recevoir Lorraine Campé, qui est contrebassiste et qui a été découverte instrumentiste des Victoires de la Musique 2025, qui a un duo avec Nathanaël Gouin au piano pour un concert de musique romantique. Et en fait, elle est également artiste fil rouge du Festival musical des Grands Crus.
Parce que c'est vrai qu'on a nommé plusieurs fois Yves Henry, il est aussi à la base de ce Festival des Grands Crus de Bourgogne qui fédère un certain nombre de gens.
Et on a l'idée chaque année d'offrir à des jeunes instrumentistes ou chanteurs la possibilité de se produire dans un maximum de concerts qui sont regroupés dans ce festival.
Voilà, tu roules d'une certaine façon.
C'est ça. Et donc, cette année, c'est Lorraine Campé qui a été choisie comme artiste fil rouge du festival et qui, je crois, participe à 4 festivals sur les 6.
Et pour ce qui est de Meursault, ce sera donc le dimanche 12, le concert de clôture à 18h. Un programme abondant, foisonnant, un vrai festival. On met les liens sur le site de BFC Classique.